Le soleil se lève sur le Chablais, il est 7h.
Radio Chablais.
Et elle se lève aux aurores pour nous amener les news. C'est Léa Journeau qu'on retrouve pour le Flash. Bonjour Léa.
Bonjour Loïc, bonjour à tous. Le 26 septembre prochain, les Suisses sont appelés aux urnes à l'effet de se prononcer sur l'initiative dite 99% lancée par les jeunes socialistes suisses. En Valais, deux comités interpartis opposés se sont formés pour soutenir le texte ou au contraire le combattre. Ils tenaient hier à Sion une conférence de presse. Chez les tenants du non, on trouve le député Colombet Roux, libéral radical Thomas Birbaum. Il craint de futures incertitudes quant aux rentrées fiscales des collectivités publiques.
Si on taxe les plus-values par l'impôt sur les gains en capital, on devra également déduire les moins-values si la personne réalise des pertes quand elle vend un titre. Donc là, on a un problème au niveau de la continuité des recettes fiscales. Les collectivités publiques peuvent se retrouver avec une année beaucoup de recettes fiscales et l'année suivante plus rien. Et c'est un problème pour les investissements publics. C'est un revancement de table qui crée beaucoup d'incertitudes pour le futur de la fiscalité dans ce pays.
Chez les partisans du oui au texte, on considère au contraire qu'attaquer le revenu du capital offrirait pour avantage de renflouer les caisses publiques par la manière forte, certes, mais avec un côté bien plus équitable. C'est en tout cas ce que considère le conseiller général montaisan popiste Adrien Derrico.
Alors les avantages nous semblent assez indéniables, en ce sens qu'on vit dans un pays où l'argent se polarise entre ceux qui en ont énormément et puis ceux qui ont quelques difficultés. Et donc le fait de pouvoir aller chercher l'argent là où il y en a le plus, ça nous semble être la meilleure manière de renflouer les caisses publiques de manière juste. Là on s'attaque au revenu du capital et que ce revenu du capital dépend étroitement de ceux qui travaillent chaque jour pour pouvoir faire fonctionner le système.
Le peuple a encore une dizaine de jours pour exprimer son choix. Verdict des urnes le dimanche 26 septembre prochain. C'était un sujet préparé par Guillaume Abbey et Yves Terrani. Le Valais va dévoiler certains de ses secrets ce week-end. Il participera comme tous les cantons à la 28e édition des Journées européennes du patrimoine. L'occasion de découvrir 22 sites au travers d'ateliers participatifs, de conférences et de visites guidées gratuites. Le tout articulé autour du thème faire et savoir-faire. Dans la région, les curieux pourront notamment pousser la porte de l'abbaye de Saint-Maurice. La directrice du site culturel nous en dit plus sur le programme prévu.
Les visiteurs pourront découvrir 4 visites de le samedi, de le dimanche. Le samedi, c'est en compagnie de Romain Jeanneret, conservateur-restaurateur du Trésor, qui leur fera découvrir ce qui se cache derrière les objets, ainsi que leur entretien à travers les siècles. Et le dimanche, c'est en compagnie du conservateur, le professeur Pierre-Alain Mario, ainsi qu'Émilie Cornet, restauratrice d'objets d'art, qu'ils pourront découvrir l'utilisation du pinceau électrolytique, le PLECO, et qui a été développé pour la restauration et le nettoyage des pièces du trésor de l'abbaye de Saint-Maurice.
Covid oblige, ces visites ne sont accessibles que sur réservation. Les places sont donc limitées, un sujet d'Isabelle Bertolini. Et puis on reste à Saint-Maurice, une nouvelle exposition va faire halte au château de Saint-Maurice. Après le World Nature Forum de Nathers, là-haut, site fortifié du Valais de la préhistoire à nos jours, va s'installer dans la cité agonoise du 11 septembre au 14 novembre. Cette exposition bilingue a été mise en place par l'Office cantonal d'archéologie et archéoconcept. Elle retrace les dernières décennies de recherche autour des sites fortifiés valaisans comme l'éperon du Cornillon de Viona. Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées à Berne hier soir pour une manifestation spontanée contre l'extension du certificat Covid. Elles dénonçaient l'introduction par la petite porte d'une obligation de se faire vacciner. Des gens sont exclus s'ils n'ont pas de certificat Covid, pouvait-on lire dans un appel publié sur les médias sociaux. Le rassemblement a été convoqué par plusieurs organisations qui s'opposent depuis longtemps aux mesures anti-coronavirus prises par les autorités. La manifestation a débuté vers 19h sur la place de la gare avant de défiler dans la vieille ville. Les participants brandissaient des drapeaux suisses et ceux des cantons. À l'étranger, la tempête tropicale Mindy est arrivée hier soir sur les côtes de la Floride, quelques heures seulement après s'être formée dans le golfe du Mexique. Elle a touché terre dans la soirée sur l'île de Saint-Vincent, non loin d'Apalachicola. Elle est accompagnée de fortes pluies qui vont s'abattre sur la Floride et l'état voisin de la Géorgie, ont prévenu les météorologues. Des inondations et des tornades sont possibles, a indiqué l'agence chargée de la gestion des urgences en Floride, invitant les habitants à suivre les bulletins d'alerte des autorités. En football, l'équipe de Suisse a enchaîné hier un deuxième match nul en 3 jours dans les éliminatoires au Mondial 2022. Après le 0-0 de dimanche face à l'Italie, elle a partagé l'enjeu sur le même score avec l'Irlande du Nord à Belfast. Bousculée par son adversaire, la sélection helvétique a manqué d'idées offensives pour espérer ramener les 3 points. Les choses auraient toutefois pu se décanter si Harry Seferovic n'avait pas raté un pénalty obtenu par Ruben Vargas à la 33e minute. Mais si la Suisse a dominé, en tout cas au niveau de la possession du ballon, elle a eu toutes les peines du monde à mettre en difficulté l'arrière-garde compacte des Nord-Irlandais. Les absences combinées de Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri ou Brel Embolo, pour n'en citer que quelques-uns, ont semblé peser sur le jeu helvétique. On écoute à ce sujet l'entraîneur assistant de la Nati, Vincent Cavin.
Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, on ne va pas parler des absents, on va parler des gens qui sont là. Et je pense que on voit que toutes les équipes qui ont affronté l'Irlande du Nord ont eu des difficultés. C'est une équipe qui est très très forte pour se défendre. Et aujourd'hui, avec son public derrière, je pense que c'était le premier match depuis longtemps où tout le stade était plein et les poussait. Je pense que c'est difficile de trouver des espaces. Après, il a manqué un peu de justesse, comme j'ai dit, pour... On aurait pu avoir à certains moments des actions, mais il manquait peut-être la dernière passe. Et contre une équipe comme ça, il faut être parfait si on veut réussir à leur faire mal.
Des propos recueillis par nos confrères de la RTS et notre envoyé spécial sur place, Christophe Morellon. Prochain rendez-vous pour l'équipe de Suisse dans un mois. Elle retrouvera l'Irlande du Nord pour le match retour à Genève avant de se déplacer en Lituanie. Au classement, elle pointe toujours au deuxième rang de son groupe, 6 points derrière l'Italie, mais avec 2 matchs de plus à disputer. En course à pied, la 3e étape du Tour du Chablais a couronné un 3e vainqueur différent hier soir à Yvorne. Lionel Sauzer a bouclé le tracé de 8 km en 27 minutes et 2 secondes. Le coureur de Lézin a devancé l'ancien cycliste de Saint-Légier, Steve Beauvais, et le Bellerin Florent Ferrara. 4e sur la ligne d'arrivée, le Martinurin Pierre-André Ramu reste en tête du classement général. Chez les dames, la victoire est revenue pour la 3e fois à la Sédunoise Carmen Rossier-Saillant, qui ne laisse que des miettes à ses concurrentes. Avec son temps de 32 minutes, elle s'est imposée avec près de 40 secondes d'avance sur Annelies Métraillé, une autre coureuse valaisanne.